Allez, on passe tout de suite au sujet, évidemment, qui nous occupe depuis des semaines, la notation de la France. La notation, oui, ne m'appelez plus jamais France. C'est vrai qu'en ce moment, franchement, c'est chaud. Hein. La note française est évidemment sous le feu des projecteurs. Il faut dire qu'avec un déficit à 5,5%, des prévisions de déficit à 5,1%, alors qu'on sait que les prévisions de croissance qui nous permettraient d'atteindre ces 5,1% ne seront pas atteintes. Une dette au-dessus de 110%, on est en zone de danger. Est-ce que c'est mérité une dégradation de la note, Emmanuel Le Chypre ?
Alors, si vous regardez les considérations habituelles qui poussent les agences de notation à dégrader, on pourrait dire oui. Parce que effectivement, historiquement, vous voyez qu'un pays dont l'endettement public a progressé de plus de 10 points de PIB au cours des 5 années précédentes, par exemple, c'est souvent quand même le signe d'une mauvaise gestion des finances publiques et qui fabrique une dégradation. Si on regarde la trajectoire attendue de nos finances publiques, oui, effectivement, la dégradation est quand même méritée, puisque vous avez, et c'est ça, moi, à mon avis, qui est vraiment le plus préoccupant, c'est qu'on a un déficit de nos finances publiques structurelles qui reste extrêmement élevé. Quand on est à 3% du PIB de déficit structurel, qui est encore une fois le déficit qui ne dépend absolument pas des fluctuations de la conjoncture, vous êtes quand même là sur un sujet extrêmement grave. Donc oui, c'est justifié. Est-ce que ça va avoir des conséquences très importantes?
C'était la question d'après, mais vous posez les questions aussi.
Non,
mais vous pouvez faire les deux. Vous voulez prendre ma place maintenant?
Pas du tout.
Non, mais oui, est-ce que ça aura des conséquences? Je plaisante, Emmanuel.
Est-ce que ça
a des conséquences, une dégradation? Parce qu'il faut rappeler aux gens qui ne connaissent pas, la dégradation, c'est de passer de 18 à 16, alors, ou de 16 à 15.
Pour les gens,
mais on n'est pas à 11, non, on n'est pas à 8, on n'est pas à 9.
Il y a effectivement un système de notation. En gros, les agences de notation, c'est un peu aux finances publiques ce que le guide Michelin est à la gastronomie. C'est-à-dire que vous notez...
Et vous connaissez ça.
Et ça, je connais. Et en gros, quand la note baisse dans le Michelin, vous avez moins envie d'aller au resto qui est noté. Et puis, quand la note d'un pays est dégradée, vous avez un peu moins envie de lui prêter aussi. La réalité, c'est ce que... On a quand même vu que toutes les dernières campagnes de dégradation avaient eu assez peu d'impact. Que les portefeuilles des investisseurs sont quand même assez inertes, hein, et la moitié de la dette française est détenue par les étrangers, ce sont des portefeuilles assez inertes. Et puis vous disiez effectivement il y a une vingtaine de notes par agence, on va pas rentrer dans les détails. C'est vrai que là on est encore sur des niveaux élevés. Pour faire simple, il faudrait qu'on descende encore de 2 ou 3 crans pour que là, ça devienne vraiment critique, qu'il y ait des problèmes, par exemple.
On arrive à 11-12, quoi.
Oui, et qu'on ne puisse plus, par exemple, être intégré dans certains portefeuilles de gestion.
On en est loin, ça.
Et donc, on en est loin. Donc non, le scénario le plus probable qui nous guette, malheureusement, c'est une espèce de scénario d'asphyxie à l'italienne plutôt qu'une crise brutale à la grecque.
Et c'est dommage. Et c'est dommage parce qu'une crise brutale nous permettrait de prendre des mesures. Une notation, une dégradation, c'est mérité.
Oui, voilà. Alors déjà, je pense pas que ce soit la question. Le terme mérité, c'est pas tellement mérité, justifié plutôt. Ouais, je dirais
mérité.
Justifié. Alors déjà, faut pas oublier qu'est-ce qu'on dégrade. C'est pas la France. C'est une opinion. Donc c'est la dégradation de l'opinion et des perspectives des agences sur effectivement la trajectoire de l'économie française. Et comme Emmanuel l'a dit, la clé c'est quoi? C'est effectivement le fait que on ait un déficit structurel qui soit abyssal, un déficit primaire. On est à peu près à entre 3,5 et 4, et déficit structurel. Donc, on est pareil
primaire,
entre 3,5 et 3,4. La différence, donc le déficit structurel, effectivement, c'est quel est l'écart de production par rapport à l'atteinte du niveau de croissance potentielle, qui serait le niveau de croissance optimale, qui permettrait d'utiliser à plein les capacités de production, le travail, capital, etc., sans provoquer une surchauffe de l'économie.
Et juste à expliquer que le déficit primaire, hors prise en compte
des charges d'intérêt de la dette. Et donc là, effectivement, les marchés, de toute façon, mondialement, avaient déjà anticipé. Les chiffres, on ne les sort pas d'hier. C'est de pire en pire, effectivement, sur ces deux composantes depuis plusieurs années. Donc, c'était déjà anticipé. Donc, l'effet va être micro-marginal. Il va juste y avoir, effectivement, quelques achats qui sont, sur des marchés qui sont, en fait... lié à la notation précise, ouais. Mais ça va être très marginal parce qu'on va pas passer de A à, enfin voilà, on perd pas trois
on
notes
pas
d'un
trois
coup,
notes.
C'est jamais comme ça. Et donc effectivement,
Emmanuel, comment on explique, avant de passer la parole aux gérants, parce que j'aimerais avoir leur avis, comment on explique l'impunité de la France? C'est-à-dire, moi, ce qui me frappe, c'est ça, c'est-à-dire que on continue à emprunter à 3%. Ouais. Avec des chiffres qui sont absolument désastreux, quoi. Et 3%, c'est rien.
Mais malheureusement, je ne crois pas qu'il y ait une impunité de la France. Mmh. Il y a une difficulté des agences de notation.
Mais l'impunité par les marchés, c'est
mais
ça
oui,
que
mais
je veux dire.
L'impunité par les marchés, ils sont aussi peu judicieux dans leur jugement et aussi peu anticipateurs que les agences de notation. Rappelons juste quand même le cas de la Grèce, qui est quand même le cas le plus emblématique de grave crise financière qu'on ait connue en Europe. La vraie crise grecque, elle commence finalement plutôt 2010-2011. Ouais. La première dégradation de la Grèce, c'est 2004. En 2007, avant la crise financière de 2008, l'OCDE, tout le monde, les agences de notation sont plutôt très optimistes sur la Grèce. Et il faut quand même qu'on s'aperçoive que les comptes sont bidons et que le déficit public n'est pas de 4% du PIB, mais plutôt de 10-12 pour arriver à déclencher cette grave crise. Donc c'est plutôt un problème de cécité, j'ai envie de dire, à la fois de la part des marchés comme des agences de notation. Et c'est pas spécialement le cas de la France. Qu'est-ce qui joue en faveur de la France? Vous avez quand même
L'épargne des ménages, déjà.
Alors,
parce que quelque part, les gens y pensent. L'épargne
qui est très forte. Bah, le patrimoine de l'État, qui, encore une fois, quand vous faites la différence entre la dette publique
et la garantie de la
patrimoine, l'euro, le fait que, et puis regardez en Europe, on va émettre 285 milliards d'euros cette année. L'Italie va émettre plus, mais dans le reste de l'Europe, à cause des, grâce aux pays frugaux, l'offre finalement de dette publique va pas être si abondante que ça. Et comme tout le monde en veut, finalement, le rapport offre-demande
c'est
plutôt favorable, au taux plutôt bas.
Une seconde.
Si je peux compléter. Pas tout à fait. Déjà, c'est pas tellement la cécité sur le marché. C'est en fait à défaut d'autres investissements.
Ouais, c'est enfin, ce voilà, que dit Emmanuel, il n'y a pas de
c'est
papier.
La liquidité. Là, ce qui joue, c'est parce qu'il y a une liquidité, il y a une forte abondance des bons du trésor sur les marchés, alors que l'Allemagne, on le sait, ne veut pas investir. S'il y avait un changement de manœuvre et que l'Allemagne se mettait à investir et à émettre beaucoup plus de bons de son trésor, là, clairement, la situation serait totalement différente. Et juste l'autre chose, sur les facteurs, je suis pas d'accord. On est la position extérieure nette de la France, elle est en déficit. L'Allemagne, les Pays-Bas, il y a 5 pays au sein de l'Union européenne qui sont en excédent, ce qui fait qu'au total dans la zone euro, la position extérieure nette, elle est excédentaire à hauteur de à peu près 3,5-3,7% du PIB, mais la France, on est à -25. Position extérieure nette, elle représente à hauteur de -25% du PIB.
Oui.
Donc c'est l'euro qui nous sauve, en fait.
L'euro, évidemment, c'est l'euro et la zone euro qui nous sauve. Parce que de toute façon, les taux directeurs que l'on regarde aux États-Unis, c'est le taux mondial qui drive. En Europe, c'est l'Allemagne. Et évidemment, la France est complètement corrélée au taux allemand. Et ce qui est assez intéressant,
c'est
que pendant la crise,
c'est ça
ce qu'on appelle le spread, vous savez, l'écartement. Parce qu'aujourd'hui, on est à quoi? On est à 2,60 sur le taux 10 ans allemand, on est à 3,10. Donc l'écart entre les deux, c'est 60 points de base.
Ouais.
Et quand tout à l'heure on parlait de la Grèce, vous vous rappelez, il y avait le fameux Frexit en 2011. Donc au plus haut fin 2011, on est arrivé à 130 points d'écart entre l'Allemagne et la France. Donc voilà, là aujourd'hui, entre 50 et 60,
c'est pour ça que
je parlais normal.
D'impunité.
Il y a une impunité totale.
Romain, quand vous regardez ça, alors c'est vrai qu'on nous explique tout le temps, à chaque fois que je dis ça, les économistes me disent la gestion d'un ménage, gestion d'une entreprise, c'est pas pareil que la gestion d'un État. Mais quand même, vous qui analysez des entreprises, quand des entreprises présentent des comptes qui sont terribles, bon, on les sanctionne. Là, vous, quand vous regardez ça en vous disant, voilà un pays qui gère très mal ses finances publiques, vous, en tant qu'homme de marché, vous n'êtes pas surpris qu'il n'y ait pas de sanctions?
Alors, il y a beaucoup de sociétés qui ont été endettées, un peu comme la France, et qui ont bénéficié de la hausse des prix. Parce que, comme la France, beaucoup de sociétés, alors des gens comme Veolia, des gens comme Unibail, qui ont été endettés et qui sont toujours endettés, ont été endettés très largement à taux fixe. Et donc, la hausse des prix a permis d'alléger le poids de la dette, parce qu'ils ont réussi à développer leur capacité de remboursement d'une dette à taux fixe, qui finalement leur a coûté beaucoup moins cher par rapport à l'augmentation de leur pouvoir d'achat, ou c'est plus ou moins le pouvoir d'achat de leurs créanciers qui a baissé. Hein, donc la France, on est aussi un peu dans le même panorama, c'est-à-dire l'inflation, ce qui fait que la dette française par rapport au PIB a été relativement stable sur la période très récente. Mmh. Et voilà, la hausse des prix aide les personnes endettées. Alors après, sur le marché des actions lui-même, les grands indices sont composés de sociétés françaises, mais qui sont très internationales. Ce qui se passe en France a un impact extrêmement limité et pas forcément d'impact sur la structure financière, parce qu'aujourd'hui, les entreprises ont des structures financières, les grandes entreprises et les grandes entreprises moyennes, très saines.
Oui, et ça c'est absolument incroyable.